Vous écoutez RTL.
Merci Maxence Lambrecq. Maxence, restez à notre écoute car aujourd'hui vous allez apprendre énormément de choses dont on est fait pour s'entendre. L'angélique, la plante, hein, pas la dame, c'est bon pour la santé. Le safran, ça réveille la virilité de ces messieurs. Bref, les plantes ont des vertus insoupçonnées mais n'auront plus de secrets pour vous dans un instant sur RTL. À tout de suite.
RTL, Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Notre émission d'hier vous a-t-elle motivé pour voir la vie côté soleil en 2015? Pour positiver, comme nous l'a conseillé vivement sur RTL le professeur Michel Lejoyeux. En tous les cas, c'était l'heure des bonnes résolutions entre 15h et 16h. Et pour notre part, et ça c'est une évidence, nous prenons tous l'engagement d'être près de vous chaque jour à votre écoute et de vous proposer un menu aussi varié que réjouissant pendant toute cette nouvelle année sur RTL. Allez, place au sujet de ce jour. La plupart des hommes ont, comme les plantes, des propriétés cachées que le hasard fait découvrir, a écrit François de la Rochefoucauld. Les plantes ont en effet des vertus insoupçonnées qui ont eu leur influence sur l'histoire et qui peuvent être bénéfiques au quotidien pour notre santé, mais également notre morale. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à notre invité, le docteur Jacques Labesca, qui est médecin phytothérapeute et auteur d'un ouvrage « Ces plantes qui écrivent l'histoire » chez Enfortas. Jacques Labesca, bonjour, bienvenue sur RTL, bonne année à vous.
Merci, oui, tous nos voeux, hein, et puis bonne résolution, effectivement, on se soigne par les plantes dès début 2015.
Mais vous êtes si vieux que ça, en fait.
Les plantes n'ont pas d'histoire, parce que les plantes n'ont pas d'histoire. Elles sont depuis l'histoire des temps, donc voilà, c'est ça.
Alors si on remonte, mais c'est même au-delà de 1915.
Et oui, parce que les hommes préhistoriques, imaginez-vous, on peut tous imaginer
ce que
c'était. En vie antérieure, peut-être.
Oui, peut-être.
Bon, eh bien, ils ont copié les animaux.
Ouais.
Et quand ils voyaient que les animaux avaient un problème, qu'ils avaient le même, ils faisaient la même chose que les animaux.
Donc en fait, c'est en observant le règne animal que les hommes ont fini par se soigner.
Souvent, et puis des fois par hasard. Des fois par hasard.
C'est-à-dire, racontez-nous des histoires.
Eh bien, par exemple, vous savez que les vaches, vous ne savez peut-être pas, mais les vaches souffrent d'hémorroïdes comme nous.
Mm-hmm,
et elles prennent des bains de siège.
Ah bon? Et elles font comment?
C'est pas à la ricazaraï, hein. C'est des bains de siège dans certaines rivières.
Ouais.
Et les rivières où pousse la ficaire. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, et c'est ce qui est passionnant. Moi, j'adore les vieux livres, mais j'adore aussi la science moderne, parce que quand même, et maintenant, on nous a expliqué que la ficaire, avait des propriétés qui étaient circulatoirement efficaces, donc elle traitait les hémorroïdes.
Donc c'est une histoire, en fait, absolument passionnante que celle des plantes, puisqu'il y a des histoires de hasard, il y a l'observation des animaux, il y a des plantes stars depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on revient sur l'importance et les vertus insoupçonnées des plantes. On a oublié ça au profit des médicaments ?
C'est pas la mode, et ça je m'élève contre la mode, parce qu'effectivement les bobos ont tendance à vouloir se soigner par les plantes, mais c'est pas la mode. C'est-à-dire que les plantes, on les a utilisées de tout temps, mais on savait pas pourquoi ni comment. Et c'est ça le problème.
Mais c'est l'ancêtre de la pharmacie, ça, quand même, non ?
Ben oui, sauf qu'on l'a oublié. Vous savez, vous connaissez la dernière loi Pétain qui persiste de 1941, la suppression du diplôme d'herboristerie.
Ouais, ça n'existe
C'est-à-dire
plus.
Que depuis 1941, on ne peut plus avoir d'herboriste. Et si on est pharmacien, on doit avoir une boutique séparée, herboristerie et pharmacie.
Alors pourquoi ce rejet, finalement, de la médecine par les plantes ?
Ben parce qu'on ne comprenait pas pourquoi elle fonctionnait. Dit comment elle fonctionnait surtout.
Ouais.
Et donc, comme elle fonctionnait mal, au lieu de l'appeler remède de bonne femme, du latin famé renommée, on a appelé remède de vieille femme pour nous le mettre au conservatoire des oublis.
Voilà, et donc vous êtes là pour restaurer l'image des plantes.
Mais tout le monde.
Alors ça n'est pas une mode, en revanche, c'est une bonne tendance quand même. Sinon vous ne feriez pas cet ouvrage.
Par exemple, vous avez passé votre baccalauréat. Vous savez d'où vient le nom baccalauréat ?
Non.
Eh bien, bacca. Lauréat, ça vous avance pas,
non.
C'est-à-dire baie de laurier. À savoir que quand les étudiants avaient fini leurs études d'équivalent du lycée à peu près et passaient en université, on leur saignait la tête d'une couronne de laurier, comme à Rome d'ailleurs,
c'est vrai.
Avec des baies de laurier, et donc ils étaient baccalauréats, et le baccalauréat est venu des baies de laurier. Et on se rend compte que les baies de laurier font partie d'un tas de préparations, notamment pour soigner les rhumatismes. Et l'avantage des plantes, c'est qu'il ne se passe pas de mois sans qu'un médicament ne soit supprimé.
Oui, parce que ça va prendre le relais.
Et malheureusement, nous sommes un peu victimes de la finance, à savoir que les laboratoires pharmaceutiques cherchent, même dans les plantes, le principe actif pour pouvoir le breveter, et à partir de là sortent un médicament. Sauf que le médicament où il n'y a qu'un principe actif peut être potentiellement dangereux car trop concentré. L'ortie a 200 composants. On pourrait même pas la fabriquer. Et quand votre grand-mère vous faisait peut-être des soupes d'ortie pour être en pleine forme. Et c'était excellent. Et à notre époque, là, au retour des fêtes, c'est excellent comme préparation.
Eh bien, vous allez nous donner évidemment énormément de détails et de conseils pendant toute cette émission. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez le nez bouché, docteur.
Eh oui, c'est un peu la moto et Paris.
Bah, il faut vous soigner par les plantes, alors.
Eh oui, je me soigne. Mais vous savez, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés et les médecins les plus mal soignés.
On va aller se faire une petite décoction, hein, et puis on va se retrouver avec vous jusqu'à 16h sur l'antenne RTL. Dans un instant, je me ferai l'écho et de vos messages et de vos questions. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
C'est le docteur Jacques Labesca qui est votre invité aujourd'hui jusqu'à 16h. Il est médecin phytothérapeute. Il est l'auteur d'un ouvrage chez Enfortas qui s'intitule « Ces plantes qui écrivent l'histoire ». Dites donc, docteur. J'en parlais hier au professeur Le Joyeux, qui est psychiatre, qui était notre invité pour la première émission de l'année 2015. Le safran, ça réveille, ça stimule les assauts virils.
C'est un sérotoninergique.
Mais alors donc, c'est le Viagra d'avant?
Pas seulement, parce qu'il agit au niveau cérébral en plus. C'est un stimulant général, c'est pas qu'un vasodilatateur. Le Viagra est un vasodilatateur stimulant sexuel, mais le safran, non. Il agit aussi au niveau sérotoninergique, et c'est là, quand on nous dit que les plantes, ça marche pas, eh ben, donnant du safran en même temps qu'un antidépresseur sérotoninergique, vous savez, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, enfin bon, tous ces antidépresseurs, si on les donne les deux ensemble, eh ben ça marche pas, parce que on potentialise avec le safran l'activité des inhibiteurs. Donc vous voyez, qu'on nous dise pas que les plantes ça marche pas et qu'elles soient contre-indiquées, enfin c'est là ou l'autre. Mais le safran, c'est un excellent tonifiant au moment où là, après les fêtes, on a un petit coup de blues, eh ben voilà, ça redobe.
Voilà,
et pas seulement en bas, en haut aussi.
Ça redobe.
Ça redope.
Ah, ça redope, d'accord, ça c'est ça votre nez bouché. Je me dis, c'est quoi,
pas
ça redobe?
C'est pas de la daube.
C'est bien le contraire, justement. Alors, Françoise, par mail, je me tourne de plus en plus vers les plantes pour mon bien-être. Je n'en peux plus de toute cette chimie qu'on nous fait avaler. Et puis, Lucie, je ne me soigne que par les plantes depuis 7 ans maintenant et je n'ai jamais été en aussi bonne santé. Et puis, alors, François qui dit, même une mauvaise herbe peut guérir, c'est étonnant. C'est et vrai, ça?
Le pissenlit ou le chien, le pissenlit ou le chiadent.
Oui, tout à fait. Moi, je me souviens de ça dans les champs, dans mon enfance.
Voilà. Et ben, le chiadent dont les jardiniers n'arrivent pas à se débarrasser, vous leur récupérez leur rhizome de chiadent, vous en faites des décoctions, et c'est un excellent drainer, justement, dans cette période, par exemple, d'après fête.
Oui.
Voilà. Et ben, une décoction de chiadent, parce que c'est une racine.
Mais on fait comment, alors?
Et ben, on prend le rhizome, vous savez.
C'est quoi le rhizome?
Le rhizome, c'est la racine souterraine qui qui se produit dans les champs, qui se multiplie, d'ailleurs. Et on en fait une décoction, c'est-à-dire qu'on met 10 minutes dans l'eau bouillante, on en boit 3 tasses par jour. Et c'est un excellent drainer.
On fait ça le soir et
On fait ça 3 fois par jour.
D'accord.
3 fois par jour après le repas.
Très bien, ok. À chaque fois que j'ai de la fièvre, je me prépare une décoction à l'ail. Ce n'est pas très bon, je l'avoue, nous écrit Greg, mais c'est très efficace. J'encourage mes amis à faire de même, mais ils ne m'écoutent pas, ils préfèrent prendre des médocs, et ça, c'est vraiment dommage.
Oui, enfin, il doit avoir des amis un peu vampires, hein, parce que...
Eh ben, l'ail...
L'ail, quand même, il faut en prendre beaucoup, et puis c'est quand même un peu décourageant pour l'environnement. Enfin, l'environnement personnel.
Oui, personnel,
là,
d'accord. Non, mais
moi,
je pense que Greg est célibataire.
Je conseillerais la sauge.
Ah bon?
La sauge est bien plus efficace. Elle est même très efficace contre les bouffées de chaleur, à condition qu'il n'y ait pas de problème phyto-œstrogénique, c'est-à-dire qu'on n'ait pas eu de cancer hormonodépendant. Attention, hein. La sauge est un excellent antifébrifuge. Mais vous connaissez le meilleur antifébrifuge?
Non.
L'aspirine. D'où elle vient, l'aspirine?
Je sais pas.
L'aspirine vient de l'écorce de saule, acide salicylique.
Mmh.
Donc on a trouvé l'acide salicylique dans l'écorce de saule. Ensuite, on l'a acétylé. Et pour donner son nom à l'aspirine, on a repris le nom d'une plante qui contient l'acide salicylique, l'Aspirea ulbaria, d'où aspirine.
Très bien, mais tout le monde a son stylo et est en train de noter. Non, mais c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est ce que l'on a, nous, au quotidien, ces médicaments qu'on peut avoir à portée de main au quotidien viennent finalement, de la plupart des plantes.
Puis qu'on ne nous dise pas qu'on traite que des petits mots.
Ça m'intéresse parce que, pardonnez-moi, Jacques, mais c'est vrai que la petite précision que je voudrais apporter en ce début d'émission, c'est que on fait une émission sur les plantes, mais les plantes ne guérissent pas tout. On est bien d'accord qu'on peut avoir un traitement allopathique aussi quand c'est nécessaire.
Alors, moi, je voudrais bien d'ailleurs qu'on ne dise pas que les plantes guérissent ou guérissent pas. Et il y avait une excellente question d'une auditrice, à savoir qu'elles maintiennent le bien-être.
Oui.
Et c'est ça qui est essentiel. Parce que ce que je voudrais enfin, c'est qu'on arrête d'avoir des médecins qui combattent les maladies. Et des médecins qui gardent les malades en bonne santé.
Oui, d'accord.
Pas.
Ok. Voilà. C'est de la prévention.
C'est de la prévention et de donner les moyens à chacun de ne pas tomber malade. Mais quand on est malade, par exemple, un des derniers traitements de la mucoviscidose, et la mucoviscidose, malheureusement, on sait qu'on peut en mourir, c'est la colchicine. Et la colchicine, c'est l'extrait de colchique. Dans les prés, oui.
Mmh.
Et j'aurais pas osé.
Je l'ai fait.
Je vais y avoir droit. J'y ai eu droit. Donc, mais le dernier traitement contre le cancer du sein, et là malheureusement on peut pas plaisanter trop, c'est l'extrait d'IF. Et c'est de l'extrait d'IF.
L'IF, l'arbre.
L'IF, l'arbre. C'est l'extrait d'écorce d'arbre. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas une synthèse chimique.
Oui, mais vous n'êtes pas en train de me dire qu'on peut soigner un cancer du sein avec de l'IF et qu'on peut soigner la mucoviscidose avec des colchiques.
On ne remplace pas sans avis de son médecin. Et je n'ai pas dit là qu'on remplaçait du tout, et ce n'est pas du tout. Le médecin doit avoir un maximum de cartes en jeu, parmi lesquelles les plantes. Mais il ne s'agit pas de remplacer tous les médicaments par les plantes, c'est une ineptie. On n'est pas au XVIIe siècle, au fin fond de la forêt amazonienne. Mais le dernier traitement de suite en cas de cancer et après chimiothérapie, c'est le Taxol. Le Taxol donné par les oncologues. Je ne parle pas là de sorcellerie, hein. Je parle vraiment d'ichamanisme. C'est vraiment, et le Taxol, c'est de l'extrait d'IF. C'est-à-dire, en soin, en suite de traitement chimiothérapique, c'est le Taxol qu'on donne. Et il y a une plante, par exemple, qui est extraordinaire aussi, là, après les fêtes, c'est l'échinacée. Cette plante amérindienne, et qui stimule les défenses de, j'en parlais tout à l'heure, de l'intestin, oui, et de son rôle dans la prévention de l'immunité, dans la défense immunitaire. Eh bien, elle était utilisée par les Indiens pour se défendre contre les blessures de flèches et de bison. Eh bien, on se rend compte maintenant qu'elle est immunostimulante, à tel point que les maladies auto-immunes, c'est-à-dire celles où on a trop d'anticorps, il ne faut pas prendre d'équidacée, par exemple. Vous voyez, donc les plantes, on ne peut pas nous dire c'est inefficace et c'est contre-indiqué.
Voilà, c'est pas inefficace, c'est pas évidemment contre-indiqué. Il faut toujours l'avis d'un médecin, puisque vous-même.
C'est un arsenal, c'est un élément de l'arsenal.
Docteur, c'est un élément de l'arsenal. Et puis d'ailleurs, les autres éléments, on va vous les présenter sur RTL jusqu'à 16h. Des questions de nos auditeurs. Et puis, moi, j'aimerais bien, puisque vous avez déjà pris froid sur votre moto en venant jusqu'ici, on va aller du côté du Québec. Vous venez avec moi ou pas?
Oui,
il y a un petit décalage horaire, hein, mais il y a peut-être des plantes là-bas aussi.
Il y a la Canneberge au Canada.
Eh bien, la Canneberge au Canada, c'est dans un instant sur RTL. À tout de suite. Dans un instant, docteur Labesca, je vous emmène au Canada parler avec Johanna. Mais auparavant, si vous le voulez bien, une petite précision, parce que vous êtes médecin phytothérapeute. Alors, c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu entre la phytothérapie, l'homéopathie et toutes les tititis qui suivent. Donc, quel est votre métier, en fait, docteur ?
J'essaye de ne pas soigner, j'essaye d'éviter qu'on tombe malade grâce à des méthodes naturelles qui sont faites pour... Alors, la phytothérapie, c'est l'usage des plantes. C'est-à-dire, en infusion, quand ce sont les parties supérieures de la plante, les fleurs, les feuilles, les tiges, voilà. La gémothérapie, c'est lorsqu'on utilise les bourgeons de plantes.
D'accord.
On considère que dans le bourgeon, il y a la potentialité de toute la plante.
Oui.
Donc, ça, c'est la gémothérapie. Ensuite, l'aromathérapie. L'aromathérapie, ce sont les parfums, c'est-à-dire que ce sont les plantes qui ont été distillées. L'aromathérapie, c'est une forme concentrée de plantes. Donc là, il ne faut pas l'utiliser sans avis médical. Jamais pur et jamais chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans, par principe.
D'accord.
Il y en a que l'on peut, mais je préfère dire que c'est comme ça.
Très bien.
Et on se rend compte, mais les femmes le savent bien, qu'elles peuvent tout faire tourner la tête avec un parfum, que l'olfactothérapie existe.
Et pas que.
C'est-à-dire que oui, ça, j'aurais pas permis, mais
je me le permets.
Donc,
l'olfactothérapie,
c'est-à-dire qu'en respirant les plantes, on stimule des zones du cerveau qui permettent d'éviter certaines pathologies.
Et l'homéopathie,
la menthe poivrée soulage les migraines.
D'accord.
Quand vous appliquez de la menthe poivrée sur la zone vraiment au tout début de la migraine, et ça soulage totalement. La camomille pour un accouchement, c'est remarquable.
D'accord. Et on la prend comment ?
On la met sur les poignets, sur la face intérieure des poignets, et on respire.
Très bien, ok. L'homéopathie ?
Alors l'homéopathie, ce sont des plantes. Alors ce ne sont pas que des plantes. On utilise tous les extraits d'animaux, des extraits de minéraux, des extraits de végétaux sous forme diluée. Ça, c'est tout à fait autre chose.
Ok, très bien. Alors il en est une que tout cela intéresse, c'est Johanna. Et Johanna, elle vit à une heure au nord de Montréal, à Val-David. Johanna, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Johanna. Je vous présente donc le docteur Jacques Labesca, qui a beaucoup plus de choses à partager avec vous que moi, puisque moi je suis très candide et je découvre cet univers. Que vous commencez-vous à connaître, Johanna, puisque ça fait maintenant 5 ans que vous vous intéressez au monde des plantes. Alors, quelle place ont-elles dans votre vie quotidienne, Johanna ?
En fait, moi, c'est vraiment, au début, c'était pour soigner mes enfants et pour me soigner moi-même. Et puis, progressivement, j'ai introduit vraiment ça plus dans mon quotidien, notamment par des tisanes, que ça, c'est vraiment plus un travail de fond, comme le docteur expliquait, pour pas tomber malade. Donc, il y a comme en amont et en aval que je les utilise.
Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez choisi de vous tourner vers les plantes ? C'était un ras-le-bol des traitements allopathiques, des médicaments qu'on nous donne ?
Moi, j'ai jamais été beaucoup malade en partant.
C'est bien.
Ouais. Et puis, c'est un peu une intuition de... au lieu d'être déconnectée de mon corps et de me dire, bon, ben, je suis malade, je m'en vais à faire la file d'attente, parce qu'il y a beaucoup d'attente quand on veut voir un médecin. Et puis de voir un médecin et il nous prescrit quelque chose que j'ai aucune idée ce que c'est. Je trouve que c'est être un peu déconnecté de son corps et de pas prendre en main sa santé. Alors je dis pas que la médecine ne fait rien de bon. Elle fait des choses extraordinaires, oui, incroyables, des greffes. Elle peut sauver des vies. Une césarienne, c'est quelque chose de... Il y a toutes sortes de processus médicaux qui sont fascinants, mais je trouve que pour les petits bobos du quotidien, un nez qui coule, une conjonctivite, des règles douloureuses, enfin, toutes des petites choses comme ça, simples, j'aime mieux prendre le pouvoir sur ça en m'appropriant, en m'informant et en essayant des choses. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien pour notre famille. Et donc, mon fils qui a 5 ans a vu un médecin une fois dans sa vie. Mon deuxième qui a 1 an et demi, il n'en a jamais vu, même pour la naissance, est avec une sage-femme chez nous. Donc, ça ne fait pas vraiment partie de notre vie d'aller voir des médecins et de faire la file à l'hôpital ou des choses comme ça.
Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Johanna, c'est que vous nous parlez d'intuition. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti comme évident. Et puis, cette idée de devenir actrice aussi de votre santé. Et j'imagine que ça va intéresser vos enfants pour l'avenir aussi. Parce que s'ils vivent comme ça dès maintenant, ils vont forcément être dans cette éducation-là. Alors, vous allez leur transmettre à vos enfants un savoir sur les différentes plantes. Comment les avez-vous découvertes, vous ?
Moi, c'est venu par une bonne amie à moi qui faisait des études en herboristerie. Je pense qu'en Europe, on appelle ça la phytothérapie, mais que c'est l'équivalent de l'herboristerie ici. Et j'étais vraiment abasourdie par les connaissances qu'elle avait. Pour elle, tout était naturel. Elle voyait les plantes, elle connaissait tellement de choses. Et ça m'était complètement inconnu. Et je me suis dit, comment ça se peut que je sois si déconnectée de mon corps et de rien connaître du tout là-dessus. Et puis, je sais que c'est un savoir qui est vraiment... très très ancien. Les plantes ont été utilisées depuis la nuit des temps et en fait même les médicaments sont commerciaux sont des dérivés des plantes. Donc on peut dire que c'est une phytothérapie aussi, mais dans un transformé plus chimiquement. Depuis toujours, ça appartenait beaucoup au monde des femmes de soigner, de connaître ça, et ça m'a juste intéressée de me dire, oh mais si mon amie elle connaît ça, pourquoi moi je pourrais pas soigner les petits bobos du quotidien de ma petite famille.
Alors partageons un petit peu, si vous le voulez bien, nos conseils, nos connaissances pour les auditeurs d'RTL, puisque le docteur Jacques Labesca nous parle des plantes aussi depuis le début de cette émission, et puis il n'a pas fini. Vous pouvez nous parler de la tisane pour femmes. Vous connaissez la tisane pour femmes, docteur ?
Ah, je connais les femmes, je connais la tisane.
Mais vous
je connais
pas
beaucoup
la tisane
de tisane pour femmes.
Beaucoup de tisane, beaucoup de femmes, mais pas la tisane pour femmes. De quoi s'agit-il, Johanna ?
Oh ben, comme dit le docteur, il y a beaucoup de plantes selon les différentes femmes, mais mon amie elle me disait qu'il y a des plantes vraiment spécifiques pour les enfants, il y en a d'autres qui travaillent vraiment bien les choses pour le système reproducteur féminin, le système hormonal féminin. En fait, je connais pas les plantes pour les hommes, mais pour moi en tout cas, j'utilise des tisanes régulièrement de ortie, framboisier, et puis des fois je mets aussi de l'avoine parce que j'allaite mon enfant et l'avoine c'est une plante qui est bonne pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de calcium. Donc pour les dents et tout ça, c'est bon, et comme je l'allaite, ben ça va se retrouver dans mon lait. Donc moi c'est vraiment la tisane que je prends le plus régulièrement, mais c'est bien de varier, de prendre un peu différentes plantes à travers les saisons et tout ça, mais bon, moi c'est vraiment ortie framboisier, mon hit avec du miel. Je prends ça tous les jours, je me fais un thermos le matin et puis je sirote ça au lieu de boire du café.
Alors ce sera ma dernière question pour vous, Johanna. Qu'est-ce que l'hydraste du Canada ? Parce que moi je ne connais pas, docteur Labesca, vous connaissez ?
Oui, c'est une plante pour la circulation, mais il y a une plante canadienne qui est merveilleuse, c'est la canneberge dont nous a pas parlé Johanna.
Johanna, la canneberge, moi je la connais dans les cocktails.
Oui, la canneberge, c'est très bon pour le système urinaire, les petits ou les petits garçons qui ont des problèmes d'infection urinaire, ça aide beaucoup, mais nous, ça fait pas partie de nos problématiques familiales.
Je comprends.
C'est le système ORL, donc on utilise beaucoup les huiles essentielles aussi avec l'eucalyptus, etc. Donc,
et l'hydraste, c'est quoi alors ? Il paraît que c'est très fort.
Oui, je vous en avais parlé là tantôt. C'est une plante qui est extrêmement puissante et qui casse grippe. Donc, on la prend en teinture mère, donc en concentré liquide. Et c'est vraiment, c'est hyper puissant, c'est hyper amer. Donc, on prend avec beaucoup de miel. Sinon, on peut pas le manger. Là, c'est trop fort. Et puis moi j'utilise ça quand je sens qu'il y a une grosse grippe qui s'en vient, on en prend un coup, et puis en ce moment j'en prends pas parce que j'allaite et c'est trop fort pour le bébé.
Oui.
Et mon conjoint par exemple il prend ça et puis il en prend une journée et après ça la grippe elle se rend pas.
Casse-grippe et un petit peu de safran et c'est parti. Johanna, je vous remercie pour votre témoignage et puis évidemment on vous souhaite une bonne année à vous, et puis merci de nous être fidèles, de nous écouter et puis d'intervenir sur cette antenne, Johanna.
merci, au revoir.
Embrassez votre bébé, hein, et puis vos enfants, et puis votre époux surtout, et plein de bonnes choses. Salut Johanna, au revoir.
Bye bye.
Au revoir pour RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On était tellement contents d'entendre quelqu'un du Canada. Voilà, on remercie d'ailleurs, hein, tous ceux qui nous écoutent du Québec et de l'autre côté de toutes les frontières qui entourent la France, puisqu'on sait que vous êtes nombreux à nous écouter à l'étranger. Vous intervenez régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous nous êtes fidèles et on vous remercie vraiment pour ça. Docteur Jacques Labesca, tout ça était très intéressant, le témoignage de Johanna. On sent que c'est très évident pour Johanna, les plantes dans son existence. Est-ce que c'est propre aux pays étrangers? Est-ce qu'on a du travail à faire, nous, en France?
Je crois que Descartes n'était pas canadien.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le cartésianisme et ils ont su rester dans cette culture ancestrale que l'on trouve partout, que l'on trouve en Afrique d'une manière naturelle, que l'on trouve à Madagascar, il faut voir. Le chamanisme s'est développé partout.
Ouais,
il n'y a qu'en France où il a été tué.
Il faut que l'on renoue en fait avec ça, avec cette intuition dont elle parle.
J'en discutais avec des chercheurs l'autre jour et ils m'ont dit, pour les plantes médicinales, on devrait prendre des ethnobotanistes, des ethnopharmacologues. Et je leur ai répondu, on prendrait un chabab, ça irait plus vite.
Oui,
voilà, parce qu'on a perdu cette notion. Autrefois, en province, on n'avait pas tant de médecins que ça. On les appelait que comme les vétérinaires. On les appelait que quand vraiment, on ne pouvait pas faire autrement, parce que d'abord, ça coûtait très cher, le médecin. Il n'était pas très disponible. Et en fait, on se soignait naturellement. Et naturellement, c'est le mot. Mmh. C'est-à-dire que les plantes sont là pour soigner la plupart des maux et à des doses tout à fait bonnes pour notre organisme.
Ça me fait penser aux sorciers d'un ancien temps, en fait,
oui,
hein, qu'on peut trouver dans les villages, et qui, voilà, une forme de sorcellerie, et j'emploie ce terme joliment.
Il y avait la mandragore, la plante, merveilleuse, la mandragore qui poussait sous le gibet des pendus.
Ah, c'est horrible ça, ce que
c'est horrible, oui. Mais on pensait que c'était la dernière semence du pendu.
Oh.
Mais en fait, il n'y a plus de pendu et il y a toujours la mandragore.
C'est horrible. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec ça?
La mandragore, c'est une plante stimulante. Une plante aphrodisiaque et stimulante. Mais elle existe encore. Mais il n'y a
plus de pendu.
Non,
mais là, vous nous plongez dans un ancien temps. Là, on va revenir début 2015,
c'est parce que dans vos livres,
2 janvier. Je sais bien. Mais c'est dans votre ouvrage qu'on les découvre, justement, chez Enfortas, ces plantes qui écrivent l'histoire. Docteur Jacques Labesca, on écoutait Johanna. Et c'est vrai que moi, je me rendais compte que Johanna, elle a une véritable connaissance déjà des plantes. Donc, on a bien compris que ce qui est une intuition pour elle ne l'est pas forcément pour nous, parce qu'on n'a pas forcément la même culture. Mais cette connaissance, elle a acquise au contact d'une amie herboriste. Elle nous parle des plantes, de teintures mères. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu perdu, parce qu'on a peut-être tous envie de se soigner d'être dans la prévention, mais comment on fait?
Voilà. Sous quelle forme trouve-t-on les plantes?
Moi, je ne veux pas aller les cueillir plus à l'autre bout de la terre.
Eh bien, Jean-Jacques Rousseau cueillait ses plantes derrière le château de Vincennes. Maintenant, je ne vous le conseille pas, parce qu'il y a d'autres plantes. Et
ça peut être dangereux aussi, ça, d'aller cueillir ses plantes soi-même.
Il faut
faire
attention de ne pas se tromper. D'autant plus que maintenant, les pharmaciens qui sont là pour reconnaître les champignons ne reconnaissent pas souvent les plantes, malheureusement. Donc
d'accord,
c'est vrai qu'il faut faire attention. Par exemple, la gentiane peut être confondue avec la vératre. La gentiane est bonne pour le foie. Après, en after fête, par exemple, ça peut être très très bon.
Ouais.
Mais la vératre, elle tue.
D'accord, ok.
Donc, voilà,
non, mais il faut faire très attention,
donc,
ça, pour ceux qui nous écoutent.
Soi-même, sauf à être sûr.
Donc on les trouve.
Ensuite, on les trouve chez les pharmaciens, puisqu'ils ont le monopole des plantes.
D'accord,
donc,
mais on les trouve sous quelle forme?
Eh bien, on les trouve en vrac, quand on peut, et sous gélule. Et là, attention, parce que dans les gélules, il y a tout et n'importe quoi.
D'accord.
Donc moi, je conseille de demander aux pharmaciens, demander aux pharmaciens ce qu'il en pense. Et on voit sa réaction. S'il est motivé, qu'il vous dit, voilà, je vous conseille ça, on peut lui faire confiance. S'il est vraiment que vendeur, c'est pas péjoratif ce que je dis là, chacun ses pôles d'intérêt, mais s'il n'est que vendeur, on change de pharmacie.
D'accord. Et alors, quand je me retrouve avec mes plantes, par exemple...
Alors, si ce sont des parties aériennes,
Donc les
infusion,
feuilles,
les feuilles, les fleurs, les tiges,
tout ce qui est extérieur.
Infusion, c'est-à-dire comme un thé, on amène de l'eau bouillante ou qui arrive à ébullition sur la plante et on laisse infuser 10 minutes, ensuite on passe et on boit.
D'accord.
Si c'est une partie souterraine, on fait une décoction, une partie souterraine ou une partie dure, c'est-à-dire du bois,
racines,
de l'écorce, la racine.
D'accord.
Une décoction, c'est-à-dire qu'on met à bouillir, donc sur le feu, pendant 10 minutes, on passe et on boit. Après, il y a d'autres formes, il y a des macérations, il y a des sirops, on peut avoir d'autres formes. La teinture mère dont a parlé Johanna, malheureusement, c'est un extrait alcoolique. C'est-à-dire qu'on met la plante en suspension dans l'alcool et on le filtre. Malheureusement, on n'a plus de teinture mère possible ou quasiment plus possible en pharmacie parce que Bruxelles a un peu contrôlé et a un peu limité l'emploi des teintures mères. Donc c'est une source qui s'est tarie là.
D'accord, mais alors la teinture mère, elle sert à quoi en fait?
La teinture mère, c'était la plante en dans l'alcool. La plante de l'alcool, donc c'était l'extrait de plante sous forme alcoolique.
Mais on s'en servait comment alors?
Eh ben, on buvait à l'apéro? en goutte.
Ah bon, d'accord.
Non, pas seulement à l'apéro, mais et vous risquez rien même en cas de contrôle, contrôle d'alcoolémie. Mais on en prenait que par 10, 20 ou 30 gouttes. Mais évidemment, ça, ça limitait pour les enfants. Mais par exemple, il y a une forme que l'on peut toujours utiliser, c'est le macérat glycériné. C'est-à-dire que on met la plante dans de la glycéride et à partir de là, on en tire du liquide et ça, on peut le boire, y compris l'enfant. Et ça, on le trouve encore.
Et les questions justement sur les enfants, et je vais vous les poser, docteur Labesca, dans un instant sur RTL avec vous, bien sûr. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Jacques Labesca est médecin phytothérapeute et puisque le Père Noël est passé, mais il a peut-être aussi quelques oublis, on ne sait jamais, parfois le Père Noël souffre un peu d'amnésie. D'ailleurs, il y a des plantes contre l'amnésie, docteur Labesca?
Ah oui, bah vous savez que l'amnésie, si on veut, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer,
oui,
là encore, je ne parle pas d'une plaisanterie,
hein.
La démence sénile, on étudie le ginkgo biloba.
D'accord.
Le ginkgo biloba, qui est cet arbre dont, que vous connaissez très bien, puisqu'il est dans le parc du Muséum Naturel, il a été vendu par Cuvier à Louis XIV. Et c'est un arbre qui a ses feuilles qui deviennent dorées à l'automne. Mmh. C'est pour ça qu'on dit quelquefois l'arbre aux 40 écus.
Oui.
Il a résisté à Hiroshima. Et il résiste dans toutes les avenues de New York.
D'accord.
Donc c'est un arbre qui résiste à la pollution, qui est antioxydant et qui aide à la circulation au niveau cérébral.
Oui.
Et donc il aurait des propriétés cognitives.
D'accord. Donc ça veut dire que si le Père Noël avait un petit problème de mémoire,
il aurait dû le prendre avant.
Mais en tout cas, vous pouvez vous rendre chez Enfortas Édition pour trouver l'ouvrage de notre invité, Ces plantes qui écrivent l'histoire. On a des questions qui nous sont posées par nos auditeurs. Tout d'abord, il y a un instant, nous parlions des différentes plantes, le framboisier, le je ne sais pas, vous pouvez m'en citer plein encore, la camomille, l'ortie. Bon, est-ce qu'on peut les mélanger, demande Jacques.
Oui, bien sûr. Mais déjà, une plante, elle est multicarte. Elle a déjà plusieurs vertus en général. Donc, ce n'est pas utile d'en mettre des quantités folles.
D'accord, mais si on a envie de se faire un cocktail qui va lutter contre la fatigue, avec modération évidemment. Non, mais si on a envie à un moment donné, parce qu'on se dit, en ce moment, je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop le moral. Est-ce qu'on peut soi-même se faire
son
mélange ou pas?
Écoutez, je vous ai dit, l'ortie a 200 composants. Donc,
d'accord,
avec
mais on va pas
seul,
se tourner que vers l'ortie. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de faire... Si on a des auditeurs qui ont envie de mélanger, par exemple, romarin et puis framboisier, est-ce qu'il y a des contre-indications au mélange des plantes quand on les achète en vrac?
Non, mais il n'y a pas toujours synergie. Il n'y a pas toujours synergie. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait une préparation, moi, je donne toujours un drainer au niveau digestif parce que la digestion, c'est l'essentiel. Bon, parce que si on fonctionne mal de ce côté-là, on peut prendre tout ce qu'on veut, ça passera pas, y compris les plantes. Donc je mets toujours un drainer style romarin, artichaut, gentiane, boldo. Et après, en fonction de l'activité, oui, je mets une ou deux autres plantes, par exemple du ginseng si on veut être plus tonifiant.
Donc il faut faire attention quand même quand on achète ces plantes à la pharmacie, de ne pas tout mélanger en fonction de nos besoins du moment, parce qu'il peut y avoir une interaction ou une annulation des effets.
C'est surtout que si on est, par exemple, nerveux, tachycarde, on peut prendre de la rhodiole qui va aider à gérer le stress. Voilà, il y a quand même, les plantes ont une cible quand même.
D'accord.
C'est pour ça que il y a quand même pas mal de livres qui existent dessus et donc en s'appuyant sur les livres
ou le conseil
pharmaceutique ou médical, voilà. Oui, parce que si vous êtes un peu nerveux, que vous avez le cœur qui bat vite, et ben par exemple, ça sera l'aubépine. Si vous êtes un peu déprimé, que vous avez le blues de la rentrée, là, puisque il va falloir qu'on reprenne, les vacances sont finies. Eh bien, on peut prendre un peu de millepertuis.
Très bien.
Vous voyez, c'est dans ce sens-là.
Les épices, nous demande Georges. Concernant les épices, j'imagine qu'il faut en consommer en grande quantité pour que ça fasse de l'effet.
Oui, alors les épices, c'est très intéressant comme question. Parce que les épices, c'était les antioxydants au départ, puisqu'ils évitaient que les viandes, les poissons ne se dégradent et permettaient de les rendre digestibles. Et maintenant, on s'est rendu compte, alors il faut manier avec précaution, que s'ils sont anti-vieillissement, ça c'est sûr. Ils sont anti-radicaux libres, vous savez, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres, ce sont les toxines en quelque sorte. Hein. Mmh. Et ils sont même, pour certains, anti-cancéreux. Mais à prendre avec précaution.
D'accord, mais est-ce qu'il faut en prendre beaucoup ?
Oui, alors c'est là, oui, on ne peut pas les prendre uniquement au niveau de la cuisine. On les prend en gélules ou on les prend en comprimé, comme on parlait du safran tout à l'heure. Et malheureusement, c'est que le safran, on ne l'a pas évoqué, mais ça coûte très très cher.
C'est vrai.
Et le safran, c'est une très belle histoire, parce que c'est une histoire. La France était très riche de safran jusqu'au XVIIIe siècle. Louis XIV avait même fait des décrets sur le safran. C'est tombé complètement, et depuis... Il y a maintenant une renaissance du safran, notamment dans le Berry, dans le Gâtinais. Et il y a même un très beau musée du safran.
C'est vrai. Une très jolie plante et effectivement, j'ai vu un reportage dernièrement dessus. C'est absolument passionnant la façon.
À la pincette.
Exactement, à la pincette. Donc c'est un geste en plus d'une élégance et il faut un savoir-faire pour pouvoir justement.
On peut pas exporter.
Tout à fait, absolument, c'est vrai. Future maman, je me pose une question. Pourrais-je soigner mon bébé avec des plantes? Nous écrit Marion. À partir
oui,
de quel âge
sûr.
Peut-on soigner un enfant?
Alors, pas les huiles essentielles. Hein. Attention.
Oui, oui.
Pas l'aromathérapie. L'aromathérapie. Contre-indiqué, sauf par un médecin ou par un pharmacien. Mais le coquelicot, votre enfant a du mal à s'endormir, eh ben, on lui fait une infusion de coquelicot, c'est mieux que
dans
tous
le biberon,
les sirops.
Comme ça.
Dans le biberon, absolument, bien
d'accord.
sûr.
Okay.
C'est mieux que le calvados dans le biberon.
Ah, hein. Bah ça, on est d'accord. Ça, oui. Ça dépend des régions. Non, mais ça veut dire quand même qu'on peut, on peut donner des plantes à des
absolument,
bébés.
Absolument, bien
sans
sûr.
Sans aucun problème.
Bien sûr.
Okay.
Pas toutes les plantes et n'importe comment.
Donc attention
toujours
là les
encore.
Ouvrages.
Mais un bébé, il n'a pas beaucoup de problèmes. Il va avoir des problèmes de constipation, des problèmes de digestion. En sachant qu'on n'en a pas parlé là, mais le premier médicament, c'est l'assiette. C'est Hippocrate. En 400 avant Jésus-Christ. Hein, c'est-à-dire qu'il faut déjà voir un petit peu les erreurs que l'on commet au niveau diététique, au niveau alimentaire, avant de commencer à se soigner. Parce que si on prend, par exemple, trop de lactose, si on prend trop de gluten, si on prend trop d'œufs,
déjà.
On enflamme l'intestin. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'un intestin enflammé, c'est vraiment la porte ouverte à plein de maladies.
Dans un instant, nous allons poursuivre notre conversation. Docteur Labesca, vous êtes bien avec nous sur RTL?
Ben oui, mais je reviendrai bien.
Bon, bah attendez, c'est pas fini déjà.
Pas
donc
parti,
on va terminer et puis on va se retrouver. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bon, docteur Labesca, il nous reste deux sujets à aborder. La préfète, puisque nous sommes le 2 janvier, donc on a bien mangé, on a bien bu. Donc il va falloir aussi que vous nous donniez quelques conseils. Et puis on va parler de sexualité aussi, parce que les plantes et le sexe, c'est quand même toute une histoire. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur Labesca, nous qui avons peut-être, nous sommes laissés aller à quelques excès pendant les fêtes de fin d'année, pour commencer 2015 sous de...
Alors la première chose,
bonne résolution.
La première chose, tout simplement, commencer la journée par un jus de citron tiède.
Oui, ça c'est bien ça,
voilà.
à jeun.
Voilà, un jus de citron, de l'eau tiède. Alors on passe mon temps à me dire, mais ça va être acide. Non, vous inquiétez pas. On peut même le sucrer, éventuellement avec un sucre roux ou un peu de miel ou du sirop d'érable. Hein, et donc c'est excellent pour démarrer la journée.
D'accord, ça a une action au niveau du
voilà,
foie.
Ça nettoie. C'est cholérétique, comme on dit, c'est-à-dire que ça nettoie la vésicule biliaire. Ça permet de liquider un petit peu toutes les toxines qu'on a pu prendre. Donc
très
ça
bien.
C'est un très bon début.
Ok.
Bon, ensuite, ce que je conseille comme infusion, c'est romarin artichaut. Alors artichaut, pas ce qu'on mange de la plante. C'est la grande feuille de la plante qu'on mange pas. D'habitude, on mange le fruit, on mange la bractée.
Oui.
En fait, c'est la grande feuille dentelée. Et cette grande feuille dentelée, c'est elle qu'il faut prendre en infusion. Donc voilà, ça c'est excellent, avec des bols d'eau. Donc feuille de bol d'eau, feuille de romarin, feuille d'artichaut.
D'accord.
Une cuillère à soupe par tasse. Et on en prend une tasse avant chaque repas. Et ça, c'est excellent.
D'accord.
Et ça nettoie bien.
Ok.
Après, comme réénergisant, et pour nettoyer en même temps, l'ortie. La soupe d'ortie ou la salade d'ortie. Mais salade d'ortie, il n'y a pas encore d'ortie.
Non, mais c'est bon, ça.
Voilà, mais la soupe d'ortie, c'est excellent. C'est
d'accord.
excellent parce que c'est très riche. Et en même temps, c'est nettoyeur.
Ok.
Voilà. C'est
très
déjà
bien.
Un bon début. Hein.
D'accord. Donc, ces trois.
Alors après, si
pendant
j'osais.
Pendant combien de temps?
Si
oui.
j'osais.
Oui.
Bah, je vous proposerai les cataplasmes de vinaigre de cidre.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous avez l'air réjoui, là.
Bah non, je. Oui, comment. On les met où?
On fait.
C'est cataplasme.
Oserais-je répondre à votre question?
Ben non, mais je vous
donc,
en prie, dites-moi au contraire.
On mène à ébullition le vinaigre de cidre.
Oui.
On trempe du linge dedans et on le met dans la zone du foie.
D'accord.
Et ça va, à travers la peau, nettoyer le foie.
Alors, attendez, là, je prends un linge, je fais bouillir du vinaigre de cidre, j'imbibe mon linge et je le pose sur mon foie.
On l'applique sur le ventre, dans la zone droite, dans la zone de projection du foie, et donc ça va nettoyer, naturellement.
Génial, ok. Donc là, maintenant, on est sur pied. Donc ça veut dire quoi? Pouvoir faire l'amour, docteur? Alors, la sexualité et les plantes.
Il faut que vous soyez sur pied pour faire l'amour. Bon, c'est vous qui l'avez dit.
Non, mais retrouver de l'énergie. Non, mais c'est intéressant parce que on le voit dans votre ouvrage. C'est vrai que. Non, mais on le voit dans votre ouvrage. On parlait du safran tout à l'heure, mais ça n'est pas la seule plante qui, à un moment donné, donne une certaine vigueur sexuelle.
Il y a une plante que je ne peux pas citer, qui a été ramenée d'ailleurs par les chevaliers de Malte en Europe.
Oui.
Alors, les chevaliers de Malte, quand on connaît un petit peu leur abstinence, normalement, vu la règle, ils ont ramené le Tribulus terrestris. Le Tribulus terrestris, c'est une plante qui est en forme de croix de Malte en plus. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ramassée.
Oui.
Et elle est stimulante à tel point qu'elle a la même action que la testostérone.
D'accord.
Et donc c'est une plante remarquable, à savoir qui stimule la libido aussi bien de l'homme que de la femme.
Donc ça
voilà.
peut se prendre en couple.
C'est unisex.
Très bien, c'est unisex. Et puis alors le ginseng, c'est vraiment aphrodisiaque?
Ah, le ginseng aussi, oui, c'est un stimulant général.
D'accord. Donc,
mais vous savez que le ginseng avait été offert par l'ambassadeur de Siam à François 1er.
Oui.
Je pense qu'il ne connaissait pas bien François 1er parce que je pense qu'il n'avait pas besoin de ginseng.
Voilà, il était de toute façon opérationnel
oui,
sans ginseng.
Oui, je pense
ginseng.
Que sans ginseng, il était déjà bien.
La coriandre, il ne faudrait coriandre. Pas en abuser, paraît-il.
Bah, toutes les plantes, il ne faut pas en abuser.
En règle
c'est pour
générale.
Ça qu'il faut, en général, il vaut mieux faire des alternances.
Mais c'est un désinhibiteur.
Oui, c'est un désinhibiteur, effectivement.
Merci.
C'est un biostimulant, comme le safran.
OK.
Mais ce que je compte, ouais, c'est parce que même si ce sont des plantes, c'est pas utile de prendre tout le temps quelque chose.
Mm. Hein,
il faut faire des cures. Par exemple, en ce moment-là, en début d'année, ce qui est important, c'est de faire une cure, par exemple, de chlorure de magnésium.
Mm.
Vous faites une cure de chlorure de magnésium, un sachet dans un litre d'eau, vous en prenez un verre tous les matins. Ça va nettoyer votre foie, votre intestin. Puisque là, on s'est un peu encrassé. Et en même temps, ça va vous donner une immunostimulation, c'est-à-dire que vous n'aurez rien de grippal, de viral dans l'année.
Et quelle est la durée moyenne d'une cure donc, que vous
un
nous conseillez
mois, 3 semaines, un mois.
Donc voilà, en fait, on peut alterner les cures toute l'année?
Bien sûr.
Donc on peut faire 12 cures.
On peut faire 12 cures si on veut, mais après on alterne, on change de cure si on a des douleurs, si on a tendance à avoir des petits problèmes thyroïdiens, si on a tendance. Voilà, après, il faut. C'est à la carte.
C'est cher les plantes?
Non.
Non, les trouve en pharmacie. C'est moins cher que les médocs,
vrac,
et ça fait moins de trous à la sécu.
De toute façon, le problème, c'est que ça fait surtout moins de dégâts.
Mm.
Donc je pense que le rapport qualité-prix est largement favorable.
D'accord. Ça prend de la place aussi dans une cuisine, tout ça, non?
Ben oui.
Mm.
Oui, mais des fois, on peut s'en servir pour autre chose.
C'est-à-dire?
Eh ben, par exemple, la sauge. Votre grand-mère faisait peut-être des rôtis de porc avec de la sauge.
Oui.
Eh ben, pourquoi on mettait de la sauge sur les rôtis? Parce que ça les rendait digestes. Et le vin de sauge, j'ai fait un autre bouquin sur les vins, par exemple, les vins de plantes. Eh bien, on peut faire des vins de plantes comme apéritif. On peut faire, vous offrez un vin de sauge comme apéritif, c'est remarquable. D'abord, vous aurez un succès fou. Ce sera pas votre cocktail, d'accord, mais c'est...
Et on a, non, mais c'est original quand même de s'offrir un vin de sauge. Vous êtes
ben
comme
oui.
ça quand vous allez chez les gens, vous offrez un vin de sauge.
J'apporte du vin de sauge.
Oui. Et c'est bon, ça?
C'est très bon. C'est très bon et en même temps, ils seront pas malades et ils vont mieux digérer. Donc, c'est l'intérêt de l'apéritif.
Et vous offrez des bouquets de plantes quand vous rencontrez les femmes?
Mais aux fleurs, oui.
Hein bah ouais, c'est ça, en fleurs. Donc, on se retrouve dans un instant avec le docteur Jacques Labesca. Et puis, je vous parlerai de lundi. Lundi, une émission vraiment totalement inédite à la radio, émouvante, intéressante. Vous allez savoir tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Eh bien, docteur Labesca, je vous remercie d'avoir été l'invité des auditeurs d'RTL en ce début d'année.
Merci à vous de m'avoir invité.
On a passé un bon moment.
De commencer l'année.
Voilà, vous reviendrez nous voir au cours de cette année pour nous parler encore des plantes. Et je rappelle votre ouvrage, Ces plantes qui écrivent l'histoire, parce que c'est effectivement énormément d'anecdotes. C'est pas simplement la connaissance des plantes, mais c'est aussi leur histoire. On n'a pas eu le temps de toutes les raconter, mais c'est très intéressant. Et c'est chez Enfortas. Merci beaucoup.
Merci
bonne année à vous
hein,
au fait. Hein.
Et bonne année à tout le monde.
Voilà. À bientôt. Merci, docteur Labesca. C'est ainsi donc que commence le premier week-end de 2015 et nous on se retrouve lundi. Avez-vous vu le film La famille Bélier? C'est un long métrage qui nous a tous sensibilisés au handicap de la surdité. Et bien lundi, nos invités nous inviteront dans le monde du silence et nous parlerons la langue des signes en direct sur RTL et sur RTL.fr. D'ici là, profitez bien de Laurent Ruquier des Grosses Têtes. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous lundi, 15h. Ciao. RTL, il est 16h. Les informations vous sont présentées par Arnaud Touche. Arnaud.